Bien, donc je vais vous parler des Ducos et de 2012, l'année des MOOC, alors que nous sommes en 2013. C'est Valérie, c'est Mariana qui a rajouté 2012 devant moi, devant mon titre, et je pense qu'elle a raison parce que le plus fort des MOOC à Educause était 2012. Alors pour moi qui suis un très vieux de Educause, hein, je suis venu pour la première fois avec Jean-François en 2000, donc c'est pas d'hier. Il y a un cycle à Educause, vous avez une nouvelle technologie, une nouvelle solution qui apparaît, vous avez tout le monde qui se précipite dans les plus grands amphis pour la voir, tous les ordinateurs sont ouverts, ça chauffe. La deuxième année, ça tombe déjà, et puis la troisième année, on vient un peu expliquer pourquoi cette technologie n'a pas résolu tous les problèmes qu'elle était censée résoudre, et ça continue. Et les MOOC n'échappent pas à cet aspect des choses, donc c'est bien de démarrer à 2012 et de parler en 2013, dès aujourd'hui. Alors, en fait, je vais commencer par les deux visites d'université que nous avons, où nous avons été auparavant, UCLA et UCSD, où Richard Katz, l'ancien vice-président recherche d'Educause, nous avait introduit. Et on a vu deux attitudes extrêmement différentes. UCLA et UCSD, ce n'est pas n'importe quoi. C'est deux énormes universités américaines. Et dans les classements de Shanghai, elles se placent 10e et 12e ou 12e et 14e, mais c'est vraiment dans le top. Et pour commencer, UCLA, donc l'université à Los Angeles, très beau bâtiment, hein, on a beaucoup apprécié l'architecture, la qualité et le confort. Les cours filmés sont nombreux, on en filme partout. Mais un cours filmé, ça ne fait pas un MOOC. Et ça, j'insiste bien, aujourd'hui où nous démarrons les MOOC en France, au travers de FUD, j'en dirai un mot à la fin, il ne suffit pas de faire des cours, de filmer des cours pour les mettre dans un MOOC. Et là, ce sont des cours qui sont conçus tout d'abord pour permettre aux étudiants de revoir leurs notes de cours. Et ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs depuis longtemps et que les étudiants trouvent partout. Ils utilisent aussi pour l'enseignement à distance. De ce point de vue-là, UCLA est plutôt novateur. L'enseignement à distance est quelque chose que la plupart des universités américaines découvrent aujourd'hui. Du point de vue de l'enseignement à distance, ils sont en retard par rapport à de nombreuses universités françaises notamment. Et il n'y a pas d'organisation équivalent à Open University, au CNED et des choses de genre aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose qui revient toujours, hein, la mutualisation qui n'est pas très en avance dans les universités américaines. N'oubliez pas, et nous l'avions mis dans un papier qu'on a publié à Educause, c'est le seul d'ailleurs qu'on a réussi à faire passer, Jean-François, il y a assez longtemps. L'université américaine est basée sur le modèle entreprise privée, donc elles sont en compétition. Elles sont en compétition pour trouver des étudiants. Ça reviendra à propos des MOOC d'ailleurs un peu plus tard. Et donc, elle découvre l'enseignement à distance, et donc, à côté de ça, les cours filmés, ça intervient. Plus tard, j'y reviendrai sur les MOOC. Et dès à présent, on nous annonce qu'il y a un refus des étudiants pour un enseignement complètement à distance. Le MOOC, le campus est quelque chose d'important dans la mythologie, dans le mythe américain, et les étudiants approchent ça avec un enthousiasme réduit, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens peuvent nous dire en France. Et la position du CLL est très simple, c'est wait and see. Ils n'ont pas de MOOC aujourd'hui. Alors ça peut paraître étonnant pour une université de ce rang, mais de ce côté-là, ils ne s'y sont pas encore engagés. Ils ne disent pas non, ils ne disent pas oui, ils attendent de voir la suite. Alors maintenant, San Diego, là on a une attitude tout à fait différente. Ils sont entrés dans le phénomène MOOC dès 2012, et en fait, parce qu'il fallait le faire, notamment pour attirer de nouveaux étudiants, hein, il y a la compétition pour recruter les meilleurs étudiants, mais aussi parce qu'ils considèrent, et ça c'est plus intéressant, que c'est la seule réponse qu'on peut avoir aujourd'hui pour la formation des minorités. Ils nous ont cité en particulier les latinos, et ils ne voient pas comment ils peuvent actuellement, dans le cadre de ce qu'ils ont, former tout l'ensemble des gens qui devraient être formés à l'université. D'abord, ils disent que 30% des lycéens n'ont pas le niveau nécessaire pour venir à l'université, et donc on voit bien derrière que le MOOC est envisagé comme un moyen de remise à niveau pour les gens. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, puis ça restera à démontrer, hein. Je vous rappelle que toutes les statistiques montrent que la population moyenne des MOOC, c'est des gens qui ont l'équivalent d'un bachelor ou d'une licence et qui ont entre 25 et 35 ans. Et d'autre part, ils disent très froidement, on n'a ni les professeurs ni les salles pour faire des cours en direct. Donc les MOOC sont une solution pour amener les minorités, on parle de Californie, on parle de UCSD, à l'université. Mais attention, disent-ils, le coût d'un MOOC, c'est jusqu'à $300,000. Alors, quand ils disent $300,000, c'est pour un MOOC qui correspond à un cours de 25 semestres. C'est exactement les coûts que moi j'ai retrouvés, que je vous publierai récemment dans un rapport que je remets en ce moment à mon président. Je suis tout à fait en accord avec ce coût. Alors, qu'en est-il des MOOC à Educause maintenant? Eh bien, vous connaissez la hype curve du Gartner. J'ai ressorti cette courbe. Je l'avais sortie en juin à Nice. Je pense qu'ils sont encore cassés la gueule. depuis cette période. Alors il y a un rapport récent de l'Open University qui vient de sortir, qui dit oui, les MOOC sont au sommet, peut-être qu'ils commencent à descendre. Je pense que l'Open University voit les choses d'une façon un petit peu en retard en ce qui concerne les MOOC. Je pense qu'ils sont déjà sur le déclin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais ça va suivre cette courbe habituelle avant de venir dans le plateau de productivité. Et ça, c'est un contraste étonnant quand je suis en France, quand j'écoute encore le téléphone sonne hier soir, les enthousiasmes du GDP, mes bons camarades Rémi Bachelet et Mathieu Cizel, qui eux découvrent tout ça alors que on fait de l'enseignement à distance ou avec les plateformes d'enseignement depuis longtemps. Non, les MOOC déjà vus aux États-Unis, on commence à se rendre compte des difficultés qu'il y a autour. Alors, en fait, maintenant, disons, le MOOC s'inscrit dans le quotidien des universités. Énormément d'universités ont des MOOC. Où sont les MOOC des universités américaines? Ils sont pour la plupart sur Coursera. Un certain nombre sont aussi sur EDX. Et puis, il y a à droite, à gauche, des universités qui ont utilisé une plateforme d'enseignement améliorée pour faire des MOOC. Je veux dire que les grands fournisseurs de plateformes d'enseignement, comme Blackboard aujourd'hui, par exemple, ont une extension MOOC Canva, la même chose. Et donc, en place d'acheter une instance, parce qu'aujourd'hui, ça a déjà peut-être été mentionné par Nicolas, mais je n'en suis pas sûr, on n'achète plus de licences logicielles, hein. On achète des instances de produits. Eh bien, ils achètent une instance et par extension, ils ont une instance qui leur permet de faire leur MOOC. Mais il y en a beaucoup sur Coursera, j'y reviendrai dans un moment, dans quelque chose que je n'ai pas mentionné en détail dans mes diapositives, puisque j'ai rencontré Daphné Coller, qui est passée me voir à Educause. Mais c'est rentré dedans. Mais quand on rentre dans le groupe d'activités de MOOC de Educause, auquel j'ai participé, la justification n'est encore pas claire. Hein. Il y a attirer les bons étudiants, il y a réduire les coûts d'inscription. On se pose encore la question, notamment réduire les coûts d'inscription en première année pour les étudiants entrant à l'université, en usage interne, en SPOC, hein, Small Online Online Private Course, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place très rapidement, c'est-à-dire que certains points des cours sont remplacés par des cours où les étudiants travaillent chez eux, hein, en flipped learning, ce qu'on appelait avant mode projet, et puis viennent rencontrer régulièrement, une fois par semaine, des tuteurs. Les premiers à avoir mis ça en place, ce ne sont pas du tout les Américains, ce sont nos collègues de l'EPFL à Lausanne qui ont commencé à convertir massivement leur première année d'université dans ce modèle-là, mais qui savent déjà qu'ils n'iront pas au bout parce qu'il y a un refus d'un certain nombre d'étudiants de basculer dans ce modèle-là. Et de toute façon, ça nous a été dit déjà à UCSD, il y a un refus général d'étudiants du basculement au tout numérique. Donc quand vous lisez à droite et à gauche que la génération Y, le numérique va complètement passer l'université, on a un retour complètement différent de l'université. Le campus existe, le campus continuera à exister, et dans un certain pourcentage qui ne nous est pas chiffré d'ailleurs aujourd'hui, d'accord, l'enseignement sous forme de MOOC, sous forme de SPOC, interviendra. Comment s'organisent les MOOC dans les universités américaines? Il y a un point important, et je crois qu'il faut que nous le retenions, c'est que dans la plupart des universités américaines, on met en place une structure indépendante des structures habituelles pour l'initiative MOOC. Et cette structure est directement placée sous la direction du président et est alimentée financièrement par des fonds spéciaux qui viennent de la présidence. Autrement dit, ça échappe au circuit enseignement et recherche traditionnel. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose à réfléchir si vous avez à proposer des structures pour mettre en place les MOOC dans vos universités. Et il se pose la même question que tout le monde peut se poser, la question de la rétribution des enseignants, parce que jusqu'à présent, dans la plupart des cas, les enseignants ont été volontaires, dans un certain nombre de cas forcés, hein, dans l'université, avec peut-être le couteau dans les reins, dans la mesure où les professeurs américains ont moins de liberté, je dirais, par rapport à leur institution que nous. Volontaires dans un certain nombre pour un certain nombre d'enseignants, parce que ça a été aussi une façon de promouvoir leurs ouvrages. Rappelez-vous que dans le modèle américain traditionnel, l'étudiant achète beaucoup de livres, remplacés maintenant par des e-books, et même, il y a un modèle qui apparaît à l'intérieur des MOOC, c'est qu'on introduit des e-books dans les MOOC et qui n'ont qu'une durée de validité pour le temps du MOOC, et après l'étudiant ne peut plus y accéder. Donc là, le support illustré numérique ou sur papier a toujours eu beaucoup d'importance dans l'éducation américaine, et pour certains professeurs, ne le cachons pas, c'est la promotion de leurs livres qui intervient là-dessus. Et donc, par derrière, il y a évidemment tout l'amortissement des coûts généraux, de la mise en place des MOOC, filmage, construction, des choses de genre, et il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle, et il n'y a pas de réponse économique à ceci pour l'instant. Quant à la diplomation, on rencontre actuellement deux attitudes. Vous avez des universités qui disent « ça ne sera jamais un diplôme », et en particulier les grandes universités, la Ivy League, refusent énergiquement à ce que le MOOC soit une façon de diplômer les étudiants. Il n'empêche qu'il y a d'autres universités, j'ai parlé de l'université de Floride, il y a Georgia Tech, il y en a de plus en plus, qui veulent bien commencer à intégrer d'une manière ou d'une autre des MOOC dans leur cursus, moyennant des diplomations qui sont renforcées. Alors vous avez la diplomation renforcée type Coursera, qui consiste maintenant à avoir à regarder à travers l'étudiant à travers la caméra de son ordinateur et à prendre des flashs régulièrement pour voir si c'est bien lui, à même faire une signature de sa façon de taper sur le clavier. Et puis vous avez des diplomations qui commencent à se faire de façon très classique. L'étudiant va payer $300 pour aller passer un examen dans un centre d'examen organisé par Pearson, par exemple. Donc vous voyez, la diplomation est quelque chose qui n'est pas clair. L'intégration dans les cursus universitaires n'est pas claire non plus dans l'université américaine. MOOC et portfolio. Là, il y avait une communication assez intéressante de Sony qui, je vous ai donné l'URL ici, dans le cadre d'un enseignement qui est un portfolio d'open badge. Alors juste un mot pour ceux qui ne savent pas ce que sont les badges et les open badges. En fait, un badge, c'est quelque chose qui certifie que vous avez obtenu une certaine compétence ou une certaine connaissance. Vous avez à l'intérieur du badge quelque chose qui renvoie sur une URL où vous avez tout le descriptif des capacités qui ont été obtenues à travers ce badge. Il est infalsifiable, en principe, et vous les accumulez dans un container. Par exemple, la Fondation Mozilla peut vous l'offrir. Et donc, quand vous aurez parcouru un cours de MOOC, vous allez vous trouver avec une collection de badges qui va décrire ce que vous avez fait à l'intérieur d'un MOOC donné. Et après, il vous appartiendra de publier ou de ne pas publier au public ou à un certain public les badges que vous avez. Donc vous avez une série de décorations, si j'ose dire, qui vont attester d'un certain nombre de connaissances, et beaucoup plus que de connaissances, de parcours dans les connaissances à l'intérieur. Et donc vous voyez qu'un MOOC devient un ensemble de badges, et des MOOC que vous pourriez suivre deviennent des ensembles de badges. Quant à la concurrence de la certification que peuvent donner les MOOC par rapport aux diplômes d'université, je n'en ai pas entendu parler du tout. Ça n'a absolument pas été abordé par les gens. Les conclusions que je voudrais donner, puis je dirais quelques mots en plus que je n'ai pas voulu mentionner dans mes diapositives, il y a quand même de plus en plus de doutes, et celle-ci que normal que je vous décrivais dès le début, sur la révolution pédagogique en ce qui concerne les MOOC. C'est un élément qui apparaît, c'est un élément qui va rester, mais avec d'autres éléments. Il y a tout de même la crainte d'un certain nombre de petites universités d'une standardisation des cours, et que demain, elles vont acheter, à Coursera notamment, et c'est là que je vais un petit peu parler de Coursera, ils vont acheter demain des cours à Coursera qu'ils vont utiliser en tant que SPOC, c'est-à-dire qu'ils auront des cours qu'ils auront achetés à Coursera venant de grandes universités, ils les délivreront aux étudiants et eux, ils ajouteront des tuteurs. Gain pour ces universités, personnel mal payé, moins qualifié pour faire les cours, donc possibilité de diminuer les coûts d'études. Par contre, ils sont absolument installés comme un élément parmi d'autres qui va s'intégrer progressivement dans les cursus. Et donc la révolution de l'enseignement supérieur avec les MOOC est encore à faire, et c'est absolument pas la fin de l'université. Peut-être des grosses difficultés pour les petites universités qui vont être obligées de prendre des cours standardisés, mais ça ne va pas plus loin. Bon, et en ce qui concerne Coursera, effectivement, beaucoup d'universités américaines sont sur Coursera, un certain nombre sont aussi sur EDX, les modèles économiques des deux consortiums sont assez différents, moins sont sur Udacity, qui est vraiment quelque chose de privé, et Udacity qui contracte plus directement avec les professeurs. D'une certaine manière, Udacity ressemble plus à un éditeur de livres par son approche managériale que Coursera et que EDX, qui eux font des accords avec les universités. Et Coursera est très ouvert avec toutes les universités américaines, mais comme ça a déjà été mentionné auparavant, Coursera est très fermé par rapport aux universités européennes. Et je peux vous dire, je pourrais vous mentionner la liste des universités françaises qui ne sont pas encore de Coursera, mais qui pourraient l'être, elle tient sur une main. Donc ça, c'est un point complètement différent. Et ceci pour terminer, et j'en ajoute par rapport à ceci, l'initiative FUN, puisque j'y participe actuellement, c'est en fait la seule solution qu'ont la plupart des universités françaises, je dirais même toutes les universités françaises, pour pouvoir partir dans le phénomène MOOC en ayant une plateforme qui est mise à leur disposition et pouvoir fonctionner. Sinon, la seule alternative qui leur resterait serait éventuellement de passer par des éditeurs privés avec toute la difficulté de relation que ça peut représenter et la non-garantie de pérennité. On peut quand même espérer que Fun, même s'il évolue, ce qui est probable, ne restera quand même pour longtemps. C'est vraiment le seul emplacement qu'on peut mettre. Et je vous rappelle qu'il n'y a strictement aucune initiative européenne de plateforme MOOC. Hein. Open Up Education à Bruxelles, c'est un portail pour présenter des ensembles de MOOC, ça n'est pas une plateforme. Les Britanniques ont construit leur solution Future Learn, qui d'une certaine manière ressemble à l'initiative française. C'est une initiative privée, mais qui appartient entièrement aux universités et à Open University. Et voilà un petit peu où on en est actuellement. Merci.
Merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions concernant les MOOC ?
Oui, Yves, tu as parlé là de la phase déclin, maturation là, du phénomène MOOC aux États-Unis, sachant qu'on peut être toujours dans le hype en France. Mais je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que tu as senti qu'il y avait une vision des MOOC comme une forme de formation low cost ou pas ?
Tu l'as senti comme moi quand on est à San Diego, dans la mesure où ils ont dit on n'a pas les moyens de prendre les minorités et d'acquérir dans les endroits. Ailleurs, dans les groupes où j'ai suivi EduCause, je n'ai pas du tout vu ça comme formation low cost, sinon pour un recrutement en première année, pour certains cours, de façon à diminuer les coûts. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins prononcé que l'année précédente. On est en train de réaliser que le coût du MOOC, c'est quand même vachement élevé hein, pour... être un petit peu marquant de ce côté-là, et que ce n'est pas la solution au problème du coût de l'enseignement. Alors, soit dit au passage, hein, on parle du coût élevé de l'enseignement aux États-Unis, mais nous, les coûts sont cachés, hein, c'est l'État qui les paye, et on voit qu'on l'a déjà réduit avec des campus qui n'ont rien à voir, par exemple, avec les campus américains. Mais pas oublier en plus que le campus est inscrit dans la mythologie de l'étudiant et de l'adolescent américain, est quelque chose d'absolument fondamental. Il n'est absolument pas en danger aujourd'hui.
Et Yves, est-ce que tu penses que les MOOC, ça peut être aussi une évolution naturelle des universités numériques thématiques, à partir des contenus qui ont été agrégés dans ces universités ?
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, parce que le MOOC, en tout cas tel qu'il est conçu, c'est un accord tripartite, université, professeur et la plateforme, ou la fondation qui va assurer une qualité et des choses de genre. Je ne vois pas où se placent les UNT. En plus, dans le modèle économique français, le copyright appartient entièrement aux professeurs. Donc, que les UNT soient fournisseurs de documents pour construire des MOOC, je veux bien, mais je vais dire très tranquillement que moi, j'ai mené une enquête dans mon université il y a 2 ans. Je leur ai dit « Connaissez-vous les UNT ?» Réponse, 5% connaissaient les UNT. Donc voilà.
Je nourrissais cette réflexion sur l'initiative d'Uniciel, en fait,
oui.
Qui est en train de...
Oui, elle est originale, elle est un petit peu mixte, c'est très bien, mais on va voir. Je veux dire, quel va être l'intérêt pour une université qui va mettre des moyens pour construire un MOOC d'en donner le bénéfice à Uniciel ? Alors, la seule chose qui peut venir, c'est que, étant donné le coût d'un MOOC, si Uniciel a les fonds pour subventionner la construction d'un MOOC, c'est normal qu'Uniciel apparaisse à ce moment-là, je dirais, parmi les participants du MOOC, mais il faudra se poser la question, c'est savoir si les UNT ont les moyens de subventionner les MOOC et si les... parallèlement à FUN qui a aussi ce propos. Donc si les UNT se proposent en tant que fournisseurs de financement pour les MOOC en voulant orienter les MOOC vers des directions stratégiques reconnues par un ensemble, là je crois qu'il y a un moyen. Mais il faudra encore régler ça avec les universités et les professeurs.